train. J'ai peur. Et j'ai froid.
N'aie pas peur, poupée, je suis là.
Mais pourquoi m'avoir amené dans ce cimetière en pleine nuit?
C'est le seul endroit que ma virilité masculine ne peut pas être gênée par tes parents.
Oh, mais quel coquet tu es!
Allez, poupée, montre-moi tes ballons d'entraînement.
Oh! Mais tu as entendu ce bruit?
Ah, voyons, ce n'est rien, poupée. Allez, aide-moi à enlever ton casque de football.
Mais qu'est-ce que c'était que ça?
Merde, mais j'en sais rien. Mais ça se rapproche en plus.
J'ai peur, Gontran.
Colle ton corps svelte et humide sur moi, poupée. Je vais te protéger.
Je vais t'apprendre à faire du tort à ma petite amie Melinda.
Barbara.
Barbara, prends ça, sale zombie. Et prends ça encore, sale zombie. Mon Dieu. Anita, est-ce que ça va?
Je me meurs. Dire que je ne pourrai jamais compléter ma liste d'épicerie.
Donne-la-moi, je te jure, sur mon 8e grade de natation que je ferai toutes tes commissions.
Très bien. Il faut aller chercher Chantal, compagnon, pour un retour sur SN. Geneviève va nous faire une chronique test de jeu. Et Christian Lacroix fait une chronique jeu de rôle.
Ça alors, Belinda? Comment trouverais-je le temps de faire tout ça entre mes séances de gym et mes cours de poids et halter?
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 57.
Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Et oui, vous écoutez Puissance Maximale, votre magazine ludique hebdomadaire. Et nous avons au téléphone actuellement, directement de la métropole. Et là, ça, une métropole, c'est à Québec, c'est Montréal. C'est Fraulein Evil. Bonjour, Fraulein.
Bonjour!
Mon Dieu, mais ça fonctionne, je suis vraiment content. Donc, dis-moi, la semaine dernière, tu es allé en Allemagne.
Eh oui, je suis retourné dans mon pays d'origine.
Dans le pays de la choucroute, et tu es allé au Festival des Jeux de Plateau, le plus grand rassemblement de joueurs de jeux de plateau au monde, à Essen.
Oui, le Spiel de Essen.
Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé de bon là-bas? Est-ce qu'il y a eu toutes sortes de présentations de nouveaux jeux? C'était quoi exactement comme événement?
Ah, il y a eu énormément de nouveaux jeux de présenter. Je vous en ai sélectionné quelques-uns qui étaient vraiment excellents. Alors, on parle de Gypsy King, le nouveau jeu de stratégie de Quali, un cornet van morcel qui rappelle beaucoup son jeu Titi Caca ou Logistico. Donc, on est une famille de gypsy et on doit se trouver des terrains de camping le plus près des lacs possible.
Oh, donc ça fitait un peu avec le Essen. Il doit y avoir beaucoup de gitans, justement, en Allemagne.
De gitans, à Essen, pas tant que ça.
Okay.
Mais en Allemagne, oui. En France aussi, d'ailleurs. Mais donc, c'est vraiment un beau petit jeu. C'est une durée d'à peu près 30 minutes. C'est de la stratégie qui est quand même assez court terme, long terme. C'est un beau mélange. C'est un peu moins difficile que Titi Caca ou Logistico, mais beaucoup plus intéressant que Factory Fun. Donc, c'était son petit dernier qui nous a présenté cette année, qui était vraiment superbe. Gypsy King, donc, qui va être probablement disponible dans le courant du mois de décembre. Alors, nous sommes aussi allés visiter, évidemment, la Canadian Connection Valley Games, qui sont en train de se faire un nom de plus en plus important dans le monde du jeu. Donc, ils nous ont régalé avec la présence de Miss Canada à leur kiosque, qui a fêté d'ailleurs son anniversaire.
La vraie Miss Canada.
Miss Canada, qui était présente pour la présentation de Container, le petit dernier de Valley Game, qui est un jeu totalement original. Donc, ce n'est pas une réimpression comme Eddie Macaire, qui nous avait servi l'année passée. C'est vraiment un jeu original de Thomas Ewart et Franz Benno Delonge. C'est le thème très, très exotique, comme disait Fadotti, du mouvement de containers et de marchandises à travers l'Atlantique.
C'est un jeu de marchandage, dans le fond.
C'est un jeu de marchandage, oui. C'est pour les amateurs de gros jeux, de jeux pesants, là, comme on a déjà dit. Donc, il y a encan, négociation, fluctuation du marché, trahison, vol. C'est absolument superbe pour les amateurs, évidemment. Moi,
donc, un container présenté par Miss Canada, ça nous fait penser à Paul Martin et ses espèces de transactions louches avec la Barbade. Sinon, quel autre jeu?
C'était la flotte de Paul Martin. Mais bon, et le fait que Miss Canada est à leur kiosque a probablement moussé les présences. Et c'est malheureusement pas tous les hommes qui étaient là pour jouer au jeu.
Bon.
Ensuite, on a fait une rencontre superbe avec M. Bruno Catala, qui nous a présenté son expansion pour M. Jack, le jeu de déduction pour deux joueurs qui avait fait un tabac l'année passée. Donc, il nous a présenté cinq nouveaux personnages à intégrer dans le jeu de M. Jack. Donc, ça permet de construire un jeu qui est beaucoup plus stratégique en choisissant les personnages et les pouvoirs qui leur sont associés. Et M. Catala vous fait dire que lorsqu'il est au Québec, il est à l'écoute de Puissance Maximale.
Tant mieux. Salut Chantal, ça va bien?
Bonjour Sébastien.
Oui. Dis-moi, toi qui as une très grande expérience, parce que tu es une femme d'expérience.
Mais bien sûr.
Dis-moi, à quoi ressemblait Essen? Est-ce que tu dirais que c'était une grande année que l'année 2007?
C'était une grande année, non. Je ne dirais pas parce qu'il y avait beaucoup de jeux, beaucoup de nouveautés, mais de petits éditeurs. Puis c'était des reprises. Il y avait beaucoup, en fait, de jeux musclés. Les petits éditeurs étaient un peu perdus aussitôt qu'on parlait de jeux légers, de jeux d'ambiance, de jeux de party, parce que c'était plus des amateurs de gros jeux qui étaient là. Il y a eu aussi une grève des trains en France pendant la foire d'Essen, qui a fait qu'au niveau des spectateurs français, ils n'étaient pas là, parce qu'ils ne pouvaient point venir, parce qu'il y avait une grève, donc ils ne pouvaient pas se rendre. Donc, au niveau de l'achalandage, ça a été moindre que dans les autres années. Mais il y a quand même eu quelques merveilles qui se sont démarquées, mais moins de jeux originaux, je dirais. Il y a des mécaniques solides qui sont revenues quand on pense à Cuba, par exemple, qui est le dauphin de Porto Rico. Mais ce n'est pas quelque chose d'original.
Mais toi, tu reviens quand même avec énormément de jeux. J'imagine que tu en as acheté toi-même.
Vous savez, Colin Evil se fait donner beaucoup de cadeaux. Alors oui, j'en ai ramené quelques-uns, mais pas autant que l'année passée.
Est-ce qu'il y en a un ou deux qui ont particulièrement attiré ton attention?
Moi, c'est Container qui m'a beaucoup attirée. J'ai évidemment craqué pour Mordred, le jeu de série limitée de Martin Wallace, qu'il a fait seulement pour la charité. Et il y a aussi son nouveau jeu Brass, qui a été édité et qui sera distribué ici par Fred Distribution, qui est absolument merveilleux, avec une version française à l'intérieur, qui est un gros jeu de négociation, développement de territoire sur le thème des mines en Angleterre, qui est absolument superbe.
Dis-moi, Chantal, juste avant de peut-être conclure l'entrevue, est-ce que tu t'es remis du décalage horaire?
Mais bien sûr, je me suis remis du décalage horaire.
Donc, ça veut donc dire qu'on va sûrement te voir cette fin de semaine?
Cette fin de semaine à Ludo, Ottawa?
Oui.
Mais bien sûr, il sera ainsi que Jaune.
Extraordinaire. Alors, j'espère que tu amèneras justement tes nouveautés des scènes.
Les nouveautés des scènes vont être en rendez-vous, Jaune et Fräulein Evil.
Bon, ben c'est super, c'est un rendez-vous, on ne le manquera pas, en tout cas, ça c'est une certitude.
À bientôt!
Salut, merci beaucoup, hein, Chantal.
Salut, Fräulein. Sinon, maintenant, c'est déjà le quiz, parce qu'aujourd'hui, il faut vous expliquer, c'est une journée spéciale. On va avoir deux fois deux quiz à faire et donc deux prix à vous faire tirer. Et vous savez que bientôt aura lieu le Festival Arcadia 2007. Qu'est-ce que c'est le Festival Arcadia? Eh bien, seulement deux mots. 20 000 personnes et jeux vidéo. Il y a 1,6 million de dollars de budget pour le festival. Donc, chaque billet a une valeur de 50 $. J'en ai trois à donner à la prochaine personne qui va appeler et qui saura me dire combien y a-t-il de mots dans le... Combien y a-t-il de lettres dans le mot Arcadia? Donc, vous appelez au 529-90-26, 529-90-26, et même qu'on vous fournit le livre parce que, ben nous autres, on va y aller.
Et oui, c'est le bus de puissance maximale qui va frapper encore une fois.
Donc, pour trois billets de Festival Arcadia, 529-90-26, appelez le mot Arcadia. Sinon, on s'en va écouter quelque chose, Sébastien.
Bonjour, je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo.
We'll be right back. je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale.
Mon petit bébé d'amour.
Oh là là, merci Normand. Alors vous êtes de retour à Puissance Maximale avec François G. Couillard et Sébastien Léonard. Et nous avons une nouvelle chroniqueuse avec nous, Geneviève. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Tu viens nous parler de divers jeux qu'on t'a prêtés, là, qui nous ont été donnés par Fox Mind. Donc Jungle Speed et Can't Stop. Je te laisse la parole.
Ça a été bien le fun. On a essayé à deux, puis à quatre joueurs pour voir la différence. Can't Stop à deux, puis à quatre joueurs, c'est le fun. Disons que je paierais peut-être pas une fortune pour ce jeu-là, vu que c'est une alternative au jeu de dés.
C'est ça, c'est quoi exactement comme genre de jeu, là?
Can't Stop, c'est t'as 4 dés, t'as des bombes. Dans le fond, c'est un jeu qui met à l'épreuve son gambling. Fait qu'il faut jouer au dés puis avancer pour se rendre pour finir une colonne pour un chiffre.
C'est ça, c'est une espèce de montagne, là, si on veut, qu'il faut monter jusqu'à...
Il faut monter 3 sommets de la montagne pour gagner. Puis on sert des niveaux différents.
Il y a des endroits qui c'est plus difficile et des endroits que c'est plus facile.
Ouais, comme le 12, ben, y en a moins par rapport au 7, vu que les statistiques fait que le 7 sort plus souvent au dé. Donc ça, c'est un exemple. Puis c'est bien le fun, mais j'aurais peut-être pas payé full cher pour ça. Je l'aurais le construire sur une maquette de carton serait un peu mieux que sur un tissu, vu que les pitons sont instables. Puis on s'est ostiné à 2 ou à 4 dans les deux situations sur certaines règles qui restent un peu nébuleuses, quoi qu'on peut faire outre quand même pour jouer. C'est okay. Le fun à recevoir comme jeu, mais je suis pas sûr que je paierais une fortune pour.
OK.
Tandis que Jungle Speed, lui, il dit en théorie qu'il joue à de 2 à 80 joueurs. Ça aussi, j'ai un doute. À 2, c'est vraiment plate. 80, j'ai un gros doute vu qu'il y a 84. Mais à 4, c'est bien. Un petit bémol, vu que c'est un peu dangereux quand on essaye tout de pogner le totem, parce que c'est un jeu de vitesse.
Il faut expliquer aux gens, c'est ça, c'est un jeu de vitesse.
C'est un jeu de vitesse. On a des cartes pareilles, un peu comme à la plus grosse carte, sauf que là, c'est des symboles. Les symboles, il y en a qui se ressemblent beaucoup, qui sont un peu, justement, qui laissent le doute, puis le plus vite doit attraper le totem pour gagner.
C'est ça, quand il y a deux personnes qui retournent le même symbole, il faut attraper le totem au centre de la table.
C'est ça.
C'est quoi? Tu trouvais que c'était dangereux, hein?
Oui, c'était dangereux dans le sens que...
Vous avez joué à 4, puis il y a des gens qui se sont fait mal.
On s'est tous squeezé le doigt au moins une fois avec les autres ou enfoncé les ongles de quelqu'un d'autre dans la main. Donc, je dirais peut-être une manicure avant de commencer à jouer. Assez courte.
Il n'y a personne qui s'est blessé, on espère.
Non, pas vraiment. Mais peut-être ma belle-sœur un petit peu, mais ça l'a pas des. Ça, elle veut quand même l'acheter, fait que.
Ah oui, elle va l'acheter, oui.
Sûrement. OK. Sûrement. Moi, par contre, j'ai préféré Animania, qui est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'attraper un totem, on doit crier le bruit d'animaux de son adversaire.
OK.
Fait que c'est plus drôle. On rit plus des autres, puis on rit un petit peu plus de soi, puis avec l'alcool, c'est un petit peu plus rough à faire.
Quoique, c'est sûr qu'attraper un totem quand on est sous, ça doit pas être super pratique non plus.
Et voilà. Mais c'est surtout si on a une grosse gang, j'imagine, parce que plus qu'on est, plus le totem est loin. Fait que 4, c'est pas pire. 6, ça serait encore bien, mais plus que ça, je pense que ça serait un peu plus difficile.
OK. Puis tu peut-être, je sais pas, tu as joué avec surtout des filles ou surtout des hommes?
Non,
je sais pas si c'est plus violent gars, avec les dirais. Hommes que c'est de prendre le totem. Ou aussi.
Ouais, plus de gars, c'est vrai. On était deux filles, en tout deux filles, puis le reste, c'était tous des gars.
OK.
Fait que.
Donc, un jeu, il faut se faire de la manicure avant de jouer. Jungle
Et pourtant,
Speed.
Les gars avaient les ongles courts, là. Fait que c'est.
Donc, soyez avertis. Sinon, Animania.
Animania.
C'est bien. Sinon, c'est tout.
Oui.
Je te remercie, Geneviève, donc, pour ces petits tests de jeu. Sinon, on s'en tourne déjà à un autre quiz. On va faire tirer un des deux jeux que Geneviève vient de nous parler. Donc, on a Jungle Speed et Can't Stop. Donc, quel qu'on va faire tirer aujourd'hui, c'est une bonne question. Ben, dans le fond, vous avez juste à appeler puis choisir votre jeu. Donc, vous allez devoir répondre à la question suivante. Combien de mots y a-t-il dans le Can't Stop? Il y a combien de mots dans Can't Stop? Tout simplement. Donc, si vous avez la réponse à cette question très difficile, 529-90-26 et on vous donne ce magnifique jeu. N'est-ce pas qu'il y a une valeur d'au moins 30$? Donc, je vous remercie et on va passer vers quoi maintenant? On va passer vers une petite un reportage que Sébastien nous a fait. Si veux-tu présenter le reportage, Sébastien?
Mais tout à fait, avec grand plaisir. En fait, c'est pas tout à fait un reportage. C'est souvenez-vous de la semaine dernière, nous avions manqué l'appel du Protégez-vous. Je ne sais pas pour tous les auditeurs qui ont vécu ce grand moment ensemble, là, ça a été comme un grand moment de silence. Eh bien, nous avons rattrapé le temps perdu. Et puis, justement, le Protégez-vous, tout le monde le connaît, c'est la sortie chaque année du spécial Jouets.
Guide des jouets.
Le Guide des jouets 2008 pour l'année prochaine, donc pour Noël. Finalement, c'est la préparation du moment de Noël. C'est un guide qui est extrêmement lu, puis c'est un guide qui... fait énormément, qui a beaucoup d'impact au niveau de l'économie puis des compagnies d'édition. En particulier, quand il s'agit d'acheter, les gens se réfèrent toujours à ce guide-là. Ce qui fait que nous sommes allés rejoindre directement Madame Charbonneau, qui est responsable du volet du guide du jouet à option consommateur, et on lui a demandé exactement à quoi ça ressemblait, puis c'était quoi exactement que le guide 2008 sur... les jouets. Donc, on se retrouve tout de suite après. Je vous laisse avec Madame Charbonneau. Il s'agit en fait d'une entrevue plus qu'un reportage.
En fait, c'est la 24e année que nous publions le guide jouet de Protégez-vous. Cette année, nous avons testé 211 nouveautés. Et de ces 211 nouveautés-là, 126 ont été cotées 5 ou 6, qui veut dire très bon ou recommandé. Alors, on peut dire que cette année, c'est une année ordinaire, moyenne. Ce n'est pas une grande année, c'est pas une mauvaise année non plus. C'est une année là, tout à fait là, dans la moyenne. Également, nous avons 6 jeux qui ont reçu un sceau d'excellence et 6 produits qui ont eu un prix poubelle. Alors ça, ce sont vraiment des produits là, qui ont été très, très, très mal cotés par nos familles testeuses.
Je pense quand même que ce volet-là de jouer à option consommateur est extrêmement suivi. Est-ce que vous augmentez votre tirage spécialement pour cette parution-là?
Cette année, le tirage est de 140 000 copies. Mais ça, c'est comme c'est publié par Protégez-vous. C'est Protégez-vous qui va pouvoir mieux vous donner là, les informations au niveau du tirage.
D'accord. Dites-moi, est-ce que vous pourriez me présenter un petit peu, c'est quoi la méthodologie qui est utilisée pour décrire les différents, pour tester les différents jeux?
Bien, les jeux sont testés dans les familles. Chaque jouet ou chaque jeu est testé par au moins 7 familles et c'est dans des conditions normales d'utilisation. Donc, si papa, maman joue, les jouets de bain vont être testés dans le bain, les jeux de société sont testés autour de la table par un groupe d'enfants, bon, évidemment, d'âge différent parce qu'on parle de frères et de sœurs. Et bon, parfois, il y a des chicanes aussi, exactement là, comme pour les jouets là, que les enfants ont à la maison.
Oui, d'ailleurs, j'ai pu constater que vous laissiez des petites remarques du style « Gabi a adoré le jeu » ou « Elle n'a pas aimé ». En fait, vous regardez toutes les remarques qui sont passées à travers les tests.
Oui, oui, ben ça fait partie aussi. Parfois, ça vient mettre un petit peu de vivant là, quand on met qu'un enfant, bon, Jonathan a aimé jouer avec les silhouettes, ben ça donne, OK, on voit qu'il y a deux versions à ce jeu-là et qu'il y en a un qui a aimé une version plus que l'autre. Alors, ça permet de mettre un peu plus de chair là, sur les produits.
Dites-moi, est-ce que vous avez une liste de caractéristiques qui doivent être cotées auprès de vos testeurs?
En fait, il y a 13 critères d'évaluation. Les plus, je ne vous les nommerai pas tous parce que c'est un petit peu long, mais évidemment, la sécurité, c'est important. Non? C'est sûr que nous, c'est plus à l'œil. C'est plus des petites pièces qui vont briser, des rebords tranchants, des bouts pointus. Et évidemment, bon, ça touche plus les petits. Si je vous parle de la clarté du mode d'emploi, bien là, c'est sûr que ça va toucher plus les jeux de société et évidemment pour les plus grands. Il y a l'esthétique aussi qui est important. Il y a la solidité, la durabilité qui est important. L'aspect pédagogique aussi, c'est quelque chose qu'on va regarder. La qualité de la traduction dans certains cas. Également, bon, évidemment, le rapport qualité-prix. Et il y a aussi l'intérêt, entre autres. Là, je ne vous ai pas tout nommé, mais entre autres, il y a aussi l'intérêt parce que c'est sûr que même si le jeu, il est bien fait, il est solide, il est sécuritaire, il est facile à manipuler, tout va bien, mais si les enfants n'ont pas joué avec, ben il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce produit-là. Donc, c'est sûr que l'intérêt est toujours bien important là, au niveau des critères d'évaluation.
Dites-moi, au niveau de la sélection des jeux, parce que en fait, c'est pas tous les jeux qui sont sur le marché que vous testez, c'est uniquement une partie.
Oui, c'est juste une petite partie. En fait, c'est sûr que on peut pas tout tester parce que moi, les produits doivent être à mon bureau au plus tard le 1er juillet de chaque année. Donc, c'est évident qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tester. Il y a des choses qui sortent entre le 1er juillet et Noël. Il y a ce que j'appelle des étoiles filantes, des produits qui sont sur le marché, qui vont être sur le marché à Noël et qui ne seront plus là une fois que Noël est passé. Il y en a d'autres qui vont être encore là et parfois, dans certains cas, quand c'est des choses vraiment intéressantes ou vraiment différentes, on va les tester quand même pour la revue, même s'ils sont arrivés un petit peu tard là, pour nous.
Mais dites-moi, est-ce que c'est les compagnies qui vous envoient les jeux ou c'est vous qui demandez les jeux?
C'est nous qui demandons, c'est nous qui choisissons parce que ça nous prend, le mot-clé pour la sélection, c'est la variété. Ça nous prend de la variété pour les petits, par exemple. Ça nous prend, bon, Hochet, Mobile, petits autos, petits jeux de blocs. Ça nous prend un peu de tout. Ça nous prend aussi de la variété au niveau des prix, évidemment, des jouets, bon, un peu plus chers, des jouets un petit peu moins chers parce que évidemment, répondre à toutes les bourses. Ça nous prend aussi la variété au niveau des groupes d'âge. Ça nous prend des jouets pour les petits. On a aussi des jeux de société pour les adultes. Donc, c'est nous, en bout là, de piste, c'est nous qui choisissons. C'est nous qui avons le dernier mot là, pour savoir quel produit va être dans le guide.
Puis, vous avez tendance à classer finalement les jeux par catégorie d'âge. C'est ce que j'ai pu voir.
Oui. Oui, on les classe par catégorie d'âge parce que c'est évidemment toujours plus facile pour le parent. Si notre enfant a 3 ans, bien, d'aller voir dans 3 ans et plus. Ça ne veut pas dire que dans 2 ans et plus, il y a peut-être des jeux ou des jouets qui pourraient aussi l'intéresser. C'est sûr que si le parent est curieux, il va déborder un petit peu. Mais c'est sûr que quand on cherche, parfois c'est plus facile par groupe d'âge. Et cette année, on a fait une petite chose un peu différente parce qu'on les a classés du meilleur jusqu'au pire. Ça veut dire qu'on commence par les sauts d'excellence et ensuite on va jusqu'au prix poubelle dans les groupes d'âge, dépendamment là, dans les groupes d'âge où il y a sauts d'excellence et prix poubelle.
Est-ce que vous avez une idée de l'impact qu'a ces prix-là sur le marché puis sur la vente des jouets?
Bien, sur la vente en chiffres, malheureusement, je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est les gens de l'industrie qui pourraient mieux vous répondre. Mais moi, j'ai déjà travaillé avant de travailler pour le guide. Je travaillais plus dans le monde, dans les boutiques spécialisées. Et je sais que l'impact était parfois un peu trop, à mon avis, parce que les gens arrivaient et voulaient absolument ce produit-là parce que ce produit-là avait eu un saut d'excellence, mais ça posait même pas la question, est-ce que mon enfant va aimer ce produit-là? Parfois, il faut aussi connaître les goûts et les intérêts de son enfant. Il faut aussi être capable de dire, bon, ben oui, ce jeu-là, c'est un saut d'excellence, mais mon enfant n'aime pas les jeux de société, il n'aime pas ça. Mon enfant est solitaire, il va aimer les bricolages, il va aimer les jeux de construction, il va aimer les CD-ROM. Ben, il faut aller chercher dans ces catégories-là, même si dans ces catégories-là, ben, il n'y a pas de jeu qui a eu un saut d'excellence. Parfois, il y a des 6 ou des 5 qui peuvent être très, très bien là, pour les enfants aussi.
J'ai vu que cette année, vous aviez comme particularité, je ne sais pas si l'année dernière vous aviez fait la même chose, mais vous avez introduit les livres.
Oui, ben, en fait, c'est là depuis l'année passée. Sauf que cette année, il y en a un petit peu plus. Ils ont étoffé, donc c'est sûr que ça paraît encore plus gros. Ça, c'est fait par Communication Jeunesse. C'est pas du tout la même chose. Là. Eux, c'est un groupe de lecteurs. Ce sont des gens de l'industrie du livre québécois, bon, soit des libraires, des bibliothécaires, c'est des gens vraiment du monde du livre c'est leur palmarès, c'est eux qui ont choisi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est classé un peu comme nous, donc c'est classé par groupe d'âge, donc c'est facile pour le parent, bon, s'il a choisi un jouet, puis il dit, bon, ben j'aimerais ça compléter avec un livre, mais il va aller voir dans les catégories par groupe d'âge, puis il va trouver des choses là, pour aussi le groupe d'âge des enfants.
J'aurais une dernière question pour vous, Madame Charbonneau. Personnellement, vous, quel est le jeu que vous préférez?
Oh mon Dieu! C'est effrayant comme question. J'aime beaucoup les jeux de société. J'aime bien, si on parle, bon, dans les jeux Cranium, entre autres, mais c'est difficile là, d'en nommer juste un. J'aime beaucoup les jeux de stratégie aussi parce que j'aime bien jouer ce que j'appelle les petits jeux apéritifs, les petits jeux de stratégie qu'on joue juste pendant que le souper est dans le four et qu'on a un petit 15-20 minutes puis on joue au backgammon ou au crib. Vous voyez, c'est pas des jeux nouveaux, là, mais c'est des jeux que j'aime bien parce que c'est des petites parties courtes et on se creuse un petit peu la tête aussi.
Et merci beaucoup, Mme Charbonneau, et puis bonne continuation.
Ben merci, joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Au revoir.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Toujours sur les ondes de CKIA. Et puis, c'est Puissance Maximale. Ce que vous avez juste à l'instant entendu, c'est un reportage, en tout cas, c'est une entrevue avec Madame Danielle Charbonneau, coordonnatrice du dossier Jouets à option consommateur pour le guide Jouets 2008, que je vous conseille absolument d'acheter parce que c'est toujours une mine d'informations et puis sur tous les types de jouets, tous les types d'âge. C'est très, très, très intéressant. Mm-hmm. Puis cette année, ils ont rajouté d'ailleurs la section sur les livres, qui est aussi une première et que je trouve vraiment très intéressant. Oui, si tu avais écouté mon... En tout cas, Option Consommateur est aussi dans la controverse en ce moment,
et oui.
Puisque récemment, on apprenait qu'ils avaient eu une injonction de la part de Megabrand.
Je pense que ça fait à peu près un mois et demi qu'on en parle.
Exactement. Toujours pour le concept du plomb, puisque Option Consommateur, en tout cas le Protégez-vous, avait déterminé qu'il y avait dans les blocs de Megabrand, les fameux blocs, surtout les blocs jaunes, qu'il y avait une concentration en plomb qui était supérieure à ce qu'eux, ils considéraient comme étant la normale. Mmh. Donc, évidemment, on s'est posé la question de savoir c'était quoi exactement la technique qu'ils avaient utilisée, puis c'était quoi toutes les répercussions que ça avait pu avoir lieu par rapport à leur injonction qui a été d'ailleurs rejetée par le tribunal puisque l'option consommateur, le Protégez-vous, est sortie. On est allé rejoindre M. David Clerc, qui est directeur général des éditions Protégez-vous, et puis justement, on lui a posé la question de savoir exactement c'était quoi cette polémique qui existait entre eux et Megabrand.
Alors écoutez ça sur Puissance Maximale.
C'est dans le contexte du guide des jouets qu'on fait annuellement là, au magazine. Cette année, on a décidé, étant donné de la controverse autour des ratels de jouets qu'il y a eu au cours des derniers mois, de tester le contenu en plomb de certains des jouets qu'on recommandait, uniquement des jouets qu'on recommandait. Et nous, ce qu'on a utilisé, c'est une méthode d'analyse qui mesure le plomb total contenu dans le plastique d'un jouet. Alors que dans ce cas de ce jouet-là, Megabrand préconise une méthode qui est utilisée en Europe qui mesure le plomb qu'on appelle lixiviable, c'est-à-dire qui pourrait se dégager d'un jouet en plastique. Il n'y a pas, il faut comprendre, de méthode officielle pour faire ce test-là au Canada. Nous autres, on a utilisé la méthode du plomb total après consultation avec Santé Canada qui nous a dit qu'on pouvait appliquer cette méthode-là pour faire cette analyse-là.
Mais ça veut donc dire que finalement, Santé Canada lui-même autorise les jouets de Megabrand sur le marché?
Ça, c'est Santé Canada qui pourrait répondre à cette question-là, mais c'est sûr que nous, on n'a pas dit que le jouet en question était dangereux ou qu'il devrait être ou ne pas être sur le marché. D'ailleurs, on ne lui a pas retiré la cote de 6, qui est la plus haute cote que notre guide donne. Pour autant, tout ce qu'on a fait, c'est informer nos lecteurs du fait que dans les échantillons de certains blocs, méga-blocs qu'on avait trouvés, on avait retrouvé une teneur en plomb qui était élevée.
C'est quand même étrange qu'à l'heure actuelle, il n'y ait pas de méthodologie qui soit homogénéisée sur l'ensemble du Canada.
Il n'y a pas de méthodologie pour ça. Cependant, il y a un document de travail, un document consultatif qui a été préparé par Santé Canada et qui propose effectivement que dans le futur, ça soit la méthode qu'on a utilisée qui soit appliquée pour tous ces jouets-là. En d'autres termes, on ne mesurait pas le plomb lixiviable, c'est-à-dire celui qui peut se dégager d'un jouet, mais le plomb total que le jouet contient. Et c'est d'ailleurs la recommandation aussi qui est faite aux États-Unis par l'organisme Consumers Union. Il y a même un projet de loi qui est à cet effet-là, qui a été présenté au Congrès américain. Et il y a un projet de réglementation au Canada qui devrait s'en venir d'ici quelques mois à cet effet.
Dites-moi, c'est les compagnies elles-mêmes qui doivent faire les tests ou est-ce que c'est Santé Canada ou des organismes extérieurs qui font les tests?
C'est normalement la compagnie elle-même qui doit exercer un certain contrôle de qualité. Dans certains cas, Santé Canada peut faire des tests, par exemple, si pour une raison X, on se doute ou on craint qu'il y ait du plomb, alors là, Santé Canada pourrait intervenir, mais il n'y a pas, disons, de programme de test systématique et exhaustif de tout ce qui rentre au pays.
Puis, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est pas tous les blocs de Megabrand qui auraient cette problématique de plomb, c'est juste une seule couleur.
C'est exact. Dans les échantillons que nous, on a testés, il y avait, je crois, des rouges, des verts et des jaunes. Et c'est uniquement dans les jaunes qu'on en a retrouvé.
Est-ce que c'est un test que vous allez faire dans l'avenir, systématiquement, sur tous les jouets que vous allez tester à Option Consommateur?
Nous, on est au magazine Protégez-vous. On travaille avec Option Consommateur pour faire les tests. Et c'est Protégez-vous qui a fait ces tests-là. On n'a pas pris de décision pour répondre à votre question, à savoir si on le ferait dans le futur. C'est pas la première fois qu'on fait des tests de plomb. Il y a quelques années, on avait déjà fait des tests de plomb dans les jouets pour enfants. Parce que c'est aussi un gros problème, parce que c'est quelque chose que les enfants portent souvent à leur bouche. On pourra peut-être décider dans le futur de continuer à le faire.
Monsieur Clerc, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue et puis je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place puissance maximal.
Qu'est-ce que c'est drôle? C'est ce que l'autre type a dit aussi.
Hein? Quel autre type?
Celui qui était au volant de la voiture qu'on a passée, celui qui m'avait pris en stop avant tout.
Et il est resté dans la voiture?
Ah oui, ça j'en suis sûr. Il serait pas allé très loin à pied.
Pourquoi ça?
Parce que je lui ai coupé les deux jambes. Et les deux bras. Et la tête. Et je vais te faire la même chose.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
Et vous êtes de retour après cette merveilleuse pièce de Psychobilly des Hellcats, un groupe de Québec qu'on apprécie. Donc, nous sommes toujours à Puissance Maximale avec François Gécouillard, Sébastien Léonard et nous avons maintenant notre chroniqueur jeu de rôle, Christian Lacroix. Bonjour Christian.
Bonjour, merci de m'accueillir encore. Et donc, pour la chronique, le jeu de rôle, c'est sérieux.
Donc, tu viens de parler de quoi exactement?
Oui, alors là, je vais vous parler, étant donné que c'est l'Halloween, évidemment, on n'y échappe pas, alors toujours une chronique un peu jeu d'horreur. Alors, moi, je vais vous parler de certaines nouvelles, puis une présentation de deux éditeurs qui ont fait des classiques dans le genre. C'est vraiment des incontournables. Donc, premièrement, Chaosium, l'éditeur du classique Call of Cthulhu.
Cthulhu,
oui. C'est pas évident à prononcer. Là, il y en a qui le prononcent Cthulhu, mais bref, Cthulhu. Ça, c'est basé sur l'œuvre de l'univers de Howard Philip Lovecraft, qui est un auteur très connu là, dans l'horreur gothique.
L'auteur des années 30, si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait. Et qui est mort dans la misère atroce. Donc, ça va avec son personnage. Donc, c'est sûr que vous allez l'apprécier plus si vous connaissez un peu ses œuvres, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Mais ce qui est spécial, c'est que moi, j'ai vu des débutants du jeu de rôle qui commençaient avec ce jeu-là. Puis là, ils ont comme décroché quand on leur apprend que leur personnage ne peut pas rien gagner. C'est soit tu peux mourir ou devenir fou. Là.
C'est anti-power gaming, dans le sens que tu peux pas justement tuer le dragon, sauver la princesse. C'est
non,
pas ça du tout.
Jamais, parce que justement, plus tu te rapproches de l'énigme, plus tu te rends compte que, dans le fond, l'humanité ne vaut rien, n'est rien. Il va être wipé à un moment donné très rapidement. Donc, à un moment donné, tu deviens fou, là, plus tu avances dans l'histoire. Alors, donc, c'est exactement. Et le système, d'ailleurs, le système de règles, comment je reflète ça un peu, parce que c'est un système très basique, donc ça s'appelle justement, ils l'ont appelé le Basic Role Playing System, parce que c'est vraiment un dessin, c'est très simple, et certains critiquent ça, ils trouvent que c'est trop simpliste, mais là où les règles sont le plus développées, c'est justement la gestion de la santé mentale, alors c'est pour vous dire Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, je le recommande. Les meilleures parties d'horreur que j'ai eues, je pense, avec ce jeu-là. Mm-hmm. On en a essayé d'autres, mais c'est vraiment, d'après moi, le plus réussi.
Donc, un jeu très adéquat pour l'Halloween qui s'en vient.
Oui, tout à fait. Et, d'ailleurs, il y a une version D20 qui est sortie aussi, il y a quelques années, 2001. Mais je le recommande moins parce que, à moins que vous soyez un fanatique du D20, mais c'est pas mon cas, mais je vous recommande l'autre parce que celui de Chaosium, qui en est à la 6e édition et qui est toujours... maintenu encore. Donc, on sort d'autres suppléments. Tandis que la version des vins, là, oubliez ça.
Ah, c'est pas supporté.
C'est plus supporté.
De toute façon, être un détective niveau 3, je trouve ça un petit peu bizarre.
Oui, exactement. Moi, je trouve que ça va pas ça très bien avec le système. Ouais. Donc, voilà. Ensuite, une petite nouvelle aussi pour Chaosium, parce qu'on sait qu'ils sont assez tranquilles. C'est malheureusement, ils ont eu des problèmes financiers suite à l'échec de leur version là, de cartes à collectionner, Mythos. Donc, souvent, en 2005, à partir de 2005, ils sont mis, par contre, à ressortir beaucoup de livres. Et là, c'est intéressant parce qu'avec le Basic Roleplay System, ils vont sortir une nouveauté, Dead World. C'est un jeu de zombies. Donc, un jeu de zombies basé sur la bande dessinée Dead World, justement. Apparemment que c'est une bande dessinée classique au niveau des zombies. Alors, donc, c'est à suivre. Moi, ça m'a donné le goût d'aller voir ça, mais on reste dans la thématique. Ça va sortir à l'automne 2008. Ça va être le premier jeu là, vraiment avec la franchise Basic Role Playing. Donc, pour l'automne prochain, pour peut-être la prochaine Halloween 2008, ça va être à surveiller. Ensuite, le deuxième éditeur, c'est White Wolf.
Mm-hmm.
Très connu.
On les connaît pour justement le vampire, le loup-garou,
oui,
Changeling, etc.
Oui, l'univers qu'ils ont développé, ils ont appelé World of Darkness. Donc, c'est vraiment les fondements de l'horreur avec les monstres. Et la particularité, c'est que à la base, on peut jouer des monstres là-dedans. Donc, c'est ça l'intérêt, je pense. On peut jouer, enfin, les vampires, les loups-garous, tout ça, et chasser des pauvres petits humains sans défense. Donc, c'est l'autre côté de la médaille. Là. Donc, c'est vraiment très différent de Donjons et Dragons, où là, on est les héros qui justement combattent ces monstres-là. Là, c'est l'inverse. Et par contre, c'est vraiment intéressant parce que, par exemple, les loups-garous, là-dedans, ils défendent Gaïa. Donc, moi, en tant que... Pendant mon adolescence, j'étais un écologiste fervent, voyez-vous. Donc, là, je tripais parce que je pouvais enfin jouer une espèce de gros monstre là, surpuissant qui combattait les
mégacorporations,
oui,
les pollueurs. Et
donc, il y aurait une campagne à faire sur le projet Rabaska. Moi, je reste sur la rive sud, à Lévis. Alors, voyez-vous, j'ai pensé à ça en m'en venant tantôt. J'ai dit, hey, Rabaska, ben oui, une bande de loups-garous. Mais enfin, bon, c'est une idée. Donc, vous pouvez aussi jouer des chasseurs de monstres quand même. Il y avait Hunter the Recon, qui est une série. Il y a aussi les mages qu'ils appellent.
Ouais.
Ça, c'est bien parce que le système de magie, c'est génial là-dedans. C'est genre, tu modifies la réalité. Tout simplement, il n'y a pas vraiment de règles. Ben, il y en a, mais c'est
ça,
très flou.
T'as pas de liste de sorts, le fireball, non. Lévitation, tout ça. C'est
pas du
vraiment
tout.
Le joueur qui décide.
Tu décris ce que tu veux faire, puis après ça, ben, là, si tu vas trop loin... Si c'est trop incongru ce que tu décris, ben là, il y a une espèce de flashback ou de réponse de la réalité qui te ramène à ta place et tu peux même exploser, en tout cas, ou être détruit si tu vas trop loin. Donc, c'est une gestion du risque. C'est assez intéressant. OK. Si vous voulez des détails, écoutez, sur cet univers-là, je vous invite à aller voir le wiki, tout simplement World of Darkness, c'est facile à trouver, puis vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Mais la nouveauté, c'est que White Wolf a demandé récemment, et ça vient de sortir, c'est sorti, je pense, en août dernier, la version D20.
Évidemment, ils ne peuvent pas s'en empêcher.
Oui, le D20 est partout. C'est sûr que c'est les plus grosses ventes de jeux de rôle, il ne faut pas se le cacher, c'est en D20. Donc, White Wolf, encore là, leurs affaires, eux autres aussi, c'est pas... Alors, ils se sont dit, on va essayer ça pour aller rejoindre cette démographie-là. Et Ils sont allés chercher Montecut qui venait d'annoncer qu'il comptait abandonner la scène. Donc, ils sont allés le voir et lui a sauté. Oui, il dit ça ferait un beau projet.
Montecut, ça, c'est un des créateurs de World of Darkness?
Non, en fait, c'est un designer du Donjon et Dragon 3, ah, okay. 3, la version 3. Donc, c'est un designer très respecté pour le D20. Et lui, sa particularité, c'est qu'il est quand même assez bon. Il faut lui donner ça pour adapter les règles du D20 à différents univers.
Okay.
Donc, c'est quand même. Il est très respecté. Là, même par ceux qui n'aiment pas le D20, là, comme moi. Mais enfin, c'est un peu une hérésie. Puis dans les forums de White Wolf, il y a une espèce de réponse, parce que les vieux de la vieille, comme on dit, eux autres, ils disent, c'est comme un peu si Bill Gates faisait le design du prochain Mac, là, Macintosh. Mm-hmm. C'est comme, ben non, tu sais,
ça marche pas du tout.
Reste dans ton Windows, buggé, puis viens pas nous déranger. Bon. Alors bref, c'est un peu un schisme à ce niveau-là.
OK.
Donc,
écoute, je te remercie. Oui. Christian, donc pour toutes ces présentations de jeux pour l'Halloween, des jeux très adéquats, donc World of Darkness en général et bien sûr Call of Cthulhu, la nouvelle version de Chaosium, la 5e édition si je ne m'abuse.
Oui, 6e même.
6e édition?
Oui, 2005.
Ah, je pensais que c'était la 5e.
Retard, hein? Je vais te laisser ton Noël.
Donc on va faire juste un petit jingle et on revient tout de suite pour la chronique jeux rétro avec Mathieu Place.
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouen-Noranda, j'écoute Puissance Maximale.
Donc, on est de retour à Puissance Maximale sans transition. Donc, bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors, tu es une fois de plus sorti de ton sous-sol.
Oui, je peux bien faire 80. Ça pour vous là, une fois de temps en temps. Là, c'est dur. J'ai après ça 2 semaines à à récupérer de cette dure expérience-là. Mais me voici et puis je vais vous parler de la suite de la dernière chronique que j'avais faite. La dernière chronique, c'était sur la chute.
L'espèce de crash des jeux vidéo.
Oui, le crash des jeux vidéo, fameux crash qui est devenu assez légendaire dans l'histoire du jeu vidéo. Là, je vais vous parler de la reprise qu'il y a eu par la suite. Reprise qui a été entamée et entreprise par Nintendo, là, principalement. En fait, ce que j'avais oublié de vous dire la dernière fois, c'est que le crash des jeux vidéo a été mondial, mais c'est surtout aux États-Unis que mm-hmm. ça a été le plus violent. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les ventes de jeux vidéo sont parties de, je ne sais pas, quelle quantité ils pouvaient vendre, là, mais c'est vraiment tombé à zéro aux États-Unis. Tandis que dans le reste du monde, au Canada, en Europe au Japon, ouais. Ben, ça a continué son petit bonhomme de chemin tranquillement. Alors, Nintendo a sorti une nouvelle console qu'on pouvait avoir à la maison qui s'appelait le Famicom, Family Computer. En fait, ça s'appelait comme ça au Japon.
Une console qui s'appelait Famicom.
Famicom, c'est ça. C'est exactement la même machine que le Nintendo qu'on a connu un petit peu après au Canada, mais c'est un autre design. Et puis, bon, il y avait quelques petites différences techniques, mais pour l'ensemble, ça restait vraiment la même chose. Alors, ils l'ont sorti au Japon, et puis ça a très bien fonctionné. Il y avait peu de jeux à l'époque. Là. Il y avait peut-être Duck Hunt, que vous vous souvenez, avec le fusil.
Pour Nintendo.
Oui, c'est ça, pour le Nintendo. Mais il n'y avait pas encore le Mario Bros, là, le Super Mario Bros qui allait faire...
Révolutionner
le monde de l'ordinateur de maison par la suite. Alors, ce qu'ils ont introduit, ils ont introduit une nouvelle manette. Alors, à partir de ce moment-là, c'était toujours des joysticks. Alors, on se souvient du vieux joystick du Atari. Ensuite de ça, il y avait Coleco aussi qui en avait sorti un petit peu plus petit. Mais Nintendo était arrivé avec une nouvelle manette qui était plus ergonomique. Parce que l'idée, c'est que le joystick fonctionnait bien dans les arcades. Ça fonctionnait bien sur une machine qui restait en place. Mm-hmm. Mais quand c'était le temps de l'avoir dans les mains, on dirait qu'il nous manquait une main, t'sais. On avait une main pour tenir le joystick, l'autre pour tenir le bâton. Puis là, il fallait peser sur le piton en même temps. Mm-hmm. Il manquait...
C'était pas ergonomique.
Oui, c'est ça. C'était vraiment pas ergonomique. Fait qu'ils ont sorti une nouvelle manette, la petite manette en petit rectangle là, qu'on connaît très bien. Et puis, ça, c'était la première innovation. Ils ont sorti aussi le ROB, l'espèce de petit robot.
Le robot qui tourne les toupies.
C'est ça, qui tourne les toupies, qui était vraiment une espèce de truc là, pour faire passer le Nintendo pour autre chose qu'un jeu vidéo à ce moment-là. Puis, il y avait évidemment le fusil qui a vraiment très bien fonctionné. Alors, ils ont sorti le Nintendo qu'on connaît aux États-Unis en 1985. Ils ont fait le tour des shows, des places où vendre les machines, les nouveaux jeux vidéo aux compagnies de jouets. Par exemple, Toys R Us, Sears, là, qui vendait des jouets aussi. Et puis, bon, ça n'a vraiment pas fonctionné pendant la première année. Évidemment, les Japonais ne connaissaient pas le marché américain. Et puis, dans ces shows-là, à l'époque, pour le moins, c'était très tape à l'œil. C'est-à-dire que les gens qui avaient des kiosques, bon, pouvaient engager des cheerleaders cheerleaders, des vedettes du porno. Puis là, ils mettaient ça dans leur... Oui, oui, carrément.
On a perdu ça.
Là. C'est vrai, ben c'est ça. Ça s'est assagi bizarrement là, par la suite. Là. Mais à l'époque, c'était comme ça. Alors, le Nintendo, avec son petit kiosque bien modeste, et puis leur jeu vidéo, ça fonctionnait pas très bien. En tout cas, moi, ça me fait vraiment... songer de penser que les gens vendaient des jeux, des jouets avec des pin-up, là, mais bon, enfin, Nintendo était vraiment pas dans le contexte à ce moment-là. Et puis, bon, ils ont décidé en 1985, au Noël de 1985, de faire un dernier grand coup et puis d'essayer de vendre leur machine à New York seulement. Seulement à New York, dans le marché de New York. Ils ont dit, bon, le marché de New York, c'est à peu près le plus difficile aux États-Unis, alors si on fonctionne là, ben tant mieux. Si ça fonctionne pas, ben écoute, on abandonne pour toujours. Et puis, ça a bien fonctionné. Ils en ont vendu 50 000 et puis ça a vraiment bien fonctionné à ce moment-là. Et puis par la suite, dernière chose qu'ils ont faite là, pour assurer leur conquête des États-Unis, ils sont associés avec des gens de marketing qui travaillaient pour une compagnie qui s'appelait World of Wonder. C'était des gens qui étaient avec Atari au début. Et puis par la suite, ils ont commercialisé des jouets comme le Teddy Ruxpin. Peut-être que vous vous souvenez, c'était le petit ours. On y mettait une cassette dans le dos et puis il racontait des histoires. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Et puis le Laser Tag. Peut-être que vous vous en souvenez de ça. C'était une espèce de pad que vous mettiez sur votre torse. Et puis il y avait un fusil qui lançait des lasers, si vous voulez. Puis là, vous pouviez viser la personne avec le pad. Et puis bon, là, ça le touchait ou non. Là. Fait que dans le fond, après avoir... réussi à faire une entente avec ces gens-là de Worlds of Wonder, et bien ça a explosé, c'est devenu très gros. Prochaine fois, je vais vous parler de l'arrivée de Super Mario Bros. Là, sur les marchés.
Qui a lancé évidemment le Nintendo.
Oui, et le side-scrolling game qui est resté pendant à peu près 15 ans par la suite.
Super, je te remercie Mathieu.
Ça fait plaisir. Donc, je retourne dans mon sous-sol où c'est bien humide.
Et vous pouvez aller voir un échantillon de son sous-sol en allant sur mathieuplace.com. Sinon, on fait une petite jingle et on vient avec les nouvelles insolites sur Puissance Maximale.
Jean-Jean aussi écoute Puissance Maximale.
Et oui, Jaune qui est notre mascotte jeu poche. Donc, Sébastien, dis-moi, tu as toutes sortes de nouvelles. Tu m'en as brandi une tout à l'heure dans les mains.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans le monde du jeu?
Très, très, très rapidement, parce qu'en fait, on arrive en fin d'émission. Eh bien, sachez, chers amis, parce que je sais que vous êtes des passionnés de jeux vidéo, en particulier toi, Mathieu, que maintenant, il existe au Japon, parce que c'est eux qui sont toujours à l'avant-garde. Hein, l'avant-garde, oui. Eh oui. Il existe maintenant au Japon, eh bien, un reality show. Une émission télévisuelle qui met en place des joueurs de jeux vidéo dans des conditions absolument atroces, les plus atroces possibles. Entre autres, ils vous feront jouer à la Nintendo pendant 14 heures sur un jeu le plus poche possible, entouré par exemple de serpents qui sont gentiment envoyés par ses amis.
Sans blague.
Ou bien vous faire jouer au pire jeu possible et imaginable. En fait, c'est un espèce de... d'émissions un petit peu sur le même concept que les émissions qui passent en ce moment et que je ne connais pas du tout. Donc je ne vous les présenterai pas. Je ne les connais pas.
Les autres émissions de télé-réalité.
Exactement. Comme autre nouvelle qui vient de France maintenant. De France, en fait, c'est à... le nom m'échappe, mais c'est à Noisel. C'est ça, Noisel, dans la banlieue parisienne de la France. Ils ont eu la bonne idée, en tout cas un artiste new-yorkais a eu la bonne idée d'installer un écran géant sur lequel il passe des images de la nuit des morts vivants. Là, il n'y a rien de très original jusque-là, vous allez me dire. Mais ce qui est très original, c'est qu'il a eu la bonne idée de pouvoir instaurer un système SMS, c'est-à-dire que l'on peut, par le judicieux utilisation de petites bulles, de bulles à la style bande dessinée, rajouter ce que vous voulez comme message sur le film qui passe en même temps. Et en plus, c'est complètement non censuré, ce qui fait qu'évidemment, les Français ayant toujours la propos et puis des termes extrêmement jovial pour pouvoir s'amuser. Je vous donne par exemple un exemple de ce qui est sur l'image que je suis en train de regarder. Marie-Thérèse, est-ce que tu baises? C'est ce qu'ils ont fait dire au noir de...
Ils ont fait dire ça à qui?
Génial.
Au noir dans La Nuit des Morts Vivants.
Oh là 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 là. Donc
c'est très sympathique. Sinon, peut-être l'agenda, immédiatement.
Oui, donc on passe sans transition vers l'agenda. On va faire ça très vite. Donc, comme à toutes les semaines, le lundi à l'Astradamus, sur la rue Couillard, il y a des soirées de jeux de plateau. On va y être cette fois-ci, donc venez nous rejoindre. Sinon, demain, c'est les parties de Go au Café Aga.
en fin de semaine, c'est les jeux de plateau, jeux de société, jeux de figurines au sous-sol du pavillon La Certe au Club des Seigneurs de la Guerre. Et sinon, samedi prochain, ça va être la journée Joue à tout, les jeux de plateau familiaux à Plessisville. Pour plus d'informations, allez sur puissancemaximale.com. Sinon, n'oubliez surtout pas, le 9 au 11 novembre, c'est le Festival Arcadia. Et ça va être aussi la parade des jouets. Donc, le Festival d'Arcadia à Montréal, 20 000 joueurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Et la parade des jouets, ça va être sur la rue Saint-Joseph à Québec. C'est pour les enfants. C'est les pompiers qui donnent des jouets aux jeunes enfants et on risque de faire l'animation. Donc, restez bien branchés.
Mon Dieu, on est déjà trop tard. Finalement, j'avais quand même une entrevue avec Hélène Vigneault de l'événement qui a lieu ce samedi.
Oui, peut-être on va le passer un petit extrait.
On va le passer très rapidement pour vous donner peut-être une idée de à quoi va ressembler cet événement qui va avoir lieu à Plessisville. Ça vous donnera sûrement le goût d'y aller. Évidemment, on n'aura pas le temps de passer l'entrevue au complet.
Et sinon, on va se laisser là-dessus. Donc, si vous voulez plus d'informations, allez sur puissancemaximale.com et restez à l'écoute. Ça va être l'émission Homologue.
Mais ça s'adresse vraiment à tout le monde qui aime jouer à des jeux. C'est une journée qui est familiale. Toute la journée, dans le fond, de 9h à 4h l'après-midi, on va pouvoir jouer à des jeux, découvrir des jeux. Donc, ça s'adresse vraiment à toute la famille. Oui, c'est au Carrefour de l'Érable, à Plessisville. C'est de 9h à 4h.
Aujourd'hui, je prends l'air, un clin d'œil à la misère, je croise un clochard.